Joseph Conrad, Le Duel, Conte militaire. Chapitre 1er. Napoléon Ier, dont la carrière eut le caractère d'un combat singulier contre toute l'Europe, détestait le duel entre officiers de son armée. Le grand empereur militaire n'était pas un spadassin et n'avait que peu de respect pour la tradition. Cependant, une histoire de duel qui prit à l'armée une ampleur légendaire traversa l'épopée des guerres impériales. Comme des artistes déments, acharnés à dorer un bloc d'or ou à peindre un lys, deux officiers, à la surprise et à l'admiration de leurs camarades, poursuivirent à travers les années d'universel carnage une querelle particulière. C'étaient des officiers de cavalerie, et leur lien avec l'ardent mais fantasque animal qui porte l'homme dans les combats semble tout spécialement approprié. On se représente mal les héros de cette légende sous la forme de deux officiers d'infanterie de ligne, par exemple, dont la fantaisie serait tempérée par les marches forcées et la valeur forcément plus terre-à-terre. Quant aux artilleurs ou aux officiers du génie, dont le régime mathématique rafraîchit la cervelle, pareille aventure ne saurait leur advenir. Les deux officiers se nommaient Ferraud et Dubert, et ils étaient tous deux lieutenants de hussards, sans appartenir d'ailleurs au même régiment. Ferraud était officier de troupe, tandis que le lieutenant Dubert avait la bonne fortune d'être attaché en qualité d'officier d'ordonnance à la personne du général commandant la division. On était à Strasbourg, et dans cette agréable et grosse garnison, ces messieurs goûtaient fort un court moment de paix. À vrai dire, s'ils en jouissaient, malgré leur nature essentiellement guerrière, c'est parce que c'était une de ces paix qui affûtent les épées et fourbissent les fusils, une de ces paix chères au cœur des soldats qui laissent intact le prestige militaire parce que personne ne croit à leur solidité ou à leur durée. Dans des circonstances historiques si propices à l'appréciation d'un repos bien gagné, le lieutenant Dubert suivait un bel après-midi une rue paisible de faubourg ensoleillé. Il gagnait le logis du lieutenant Ferraud qui habitait chez une vieille demoiselle, une maison particulière flanquée d'un jardin. Une jeune servante en costume d'Alsacienne répondit sans tarder à son coup de sonnette. Son teint frais et de longs cils, modestement baissés à la vue du bel officier, incitèrent le lieutenant Dubert, qui était accessible aux sensations esthétiques, à tempérer la froide et sévère gravité de son visage. Il remarquait en même temps que la jolie fille portait sur son bras une culotte de hussard, bleue à bandes rouges. « Le lieutenant Ferraud est-il là ? » demanda-t-il d'un ton aimable. « Oh non, monsieur, il est parti à 6 heures du matin. » La jolie servante s'efforçait de fermer la porte. Le lieutenant Dubert, s'opposant à cette tentative avec une douce fermeté, pénétra dans le vestibule et fit sonner ses éperons. « Voyons, petite. » « Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne soit pas rentré depuis 6 heures du matin. » Ce disant, le lieutenant Dubert ouvrait sans cérémonie la porte d'une pièce si nette, si bien tenue, si plaisante, qu'il lui fallut l'évidence des uniformes, bottes et autres accoutrements militaires pour croire que ce fut bien la chambre du lieutenant Ferraud. Il se convainquit du même coup que Ferraud n'était pas chez lui. La fidèle servante l'avait suivi dans la pièce, et levait vers lui des yeux candides. « Hum !» fit le lieutenant Dubert. Il était fort désappointé, car il venait de passer successivement dans tous les endroits où l'on a la chance de trouver un lieutenant des hussards par un bel après-midi. « Alors, il est sorti. Sauriez-vous par hasard, ma belle, où il a pu aller à 6 heures du matin ?»« Non, » répondit-elle promptement. « Il est rentré tard la nuit dernière et s'est mis bientôt à ronfler. » Je l'ai entendu en me levant à 5 heures. Il a mis son plus vieil uniforme pour sortir, un fer de service, je suppose. Pas de service, pas le moins du monde, s'écria le lieutenant Dubert. Sachez, mon ange, que s'il est sorti si tôt, c'était pour aller se battre en duel avec un civil. La jeune fille accueillit cette nouvelle sans un tressaillement. Ses longs cils sombres ne battirent même pas. Manifestement, les gestes du lieutenant Ferraud était pour elle au-dessus de toute critique. Elle se contenta de lever un instant les yeux avec une muette expression de surprise, et cette absence d'émotion fit conclure au lieutenant Dubert qu'elle avait dû revoir Ferraud depuis le matin. Il jeta les yeux tout autour de la pièce. « Voyons, insista-t-il, avec une familiarité confiante, il est peut-être quelque part dans la maison. » Elle fit un geste de dénégation. « Tant pis pour lui, continua Dubert, avec un accent de conviction inquiète. Il est bien rentré dans la matinée. » Cette fois, la jolie fille hocha légèrement la tête. « Ah, vous voyez bien, cria Dubert. Et il est reparti? Pourquoi faire? Il ne pouvait donc pas rester tranquillement chez lui? Quel fou, ma chère petite !» La bienveillance naturelle au lieutenant Dubert et un sentiment très marqué de camaraderie accentuaient ses talents d'observation. Il prit un accent de la plus insinuante douceur et, regardant la culotte de hussard passée sur le bras de la soubrette, fit appel à tout l'intérêt qu'elle pouvait prendre au bonheur et au bien-être du lieutenant Ferraud. Il se fit pressant et persuasif. Son désir de rejoindre sans délai le lieutenant Ferraud, dans l'intérêt même du jeune homme, paraissait si sincère qu'il fit céder les scrupules de la jeune fille. Malheureusement, elle ne savait pas grand-chose. Rentré un peu avant 10 heures, le lieutenant était allé droit à sa chambre et s'était jeté sur son lit pour reprendre son somme. Elle l'avait entendu ronfler plus fort encore que le matin, jusqu'à 1 heure avancée de l'après-midi. Il s'était alors levé, avait endossé son plus bel uniforme et était sorti. C'est tout ce qu'elle savait. Elle leva des yeux qu'Hubert contempla avec incrédulité. C'est incroyable! Parti pour se montrer en ville en uniforme numéro 1. Ma chère enfant, croiriez-vous qu'il a pourfendu son bonhomme ce matin, de part en part, comme un lièvre à la broche? La jolie servante apprit la lugubre nouvelle sans le moindre signe de détresse. Elle serra les lèvres d'un air pensif. « Il n'est pas en ville, » fit-elle à voix basse. « Pas du tout. » « La famille du Pékin fait un vacarme affreux, » continua le lieutenant Dubert, qui poursuivait le cours de ses pensées. « Et le général est furieux. C'est une des meilleures familles de la ville. Ferraud aurait dû rester chez lui, au moins. »« Qu'est-ce que le général va lui faire ?» interrompit la jeune fille avec inquiétude. « On ne lui coupera pas la tête, bien sûr, » grogna le lieutenant Dubert. « Mais sa conduite est positivement indécente. Il va s'attirer toutes sortes d'ennuis avec cette espèce de bravade. »« Je vous dis qu'il ne se promène pas en ville, » insista timidement l'Alsacienne. « Eh, c'est vrai maintenant que j'y pense. Je ne l'ai vu nulle part. Où a-t-il donc pu se fourrer ?»« Il est allé faire une visite, » hasarda la servante après un moment de silence. Le lieutenant Dubert tressaillit. « Une visite ? Une visite à une dame, voulez-vous dire ? Le toupet de cet homme-là. Et comment pouvez-vous le savoir, ma belle ?» Sans cacher son mépris de femme pour l'épaisse sottise de l'esprit masculin, la jolie servante lui rappela que le lieutenant Ferraud avait endossé son meilleur uniforme avant de sortir. « Il avait aussi mis son plus beau dolman, » ajouta-t-elle, en se détournant brusquement, comme si la conversation eût commencé à lui agacer les nerfs. Sans discuter le bien-fondé d'une telle déduction, le lieutenant Dubert ne voyait pas en quoi elle pouvait l'aider dans son enquête officielle, car sa chasse avait un caractère officiel. Il ne connaissait aucune dame chez qui cet homme, qui avait tué un adversaire dans la matinée, eut chance de se trouver l'après-midi. Les deux jeunes gens ne se connaissaient que de loin. Il mordillait ses gants avec une mine de perplexité. « Une visite, » s'écria-t-il. « Une visite au diable ?» La jeune fille qui lui tournait le dos et pliait la culotte de hussard sur une chaise eut un petit rire vexé. « Oh, Seigneur, non ! À Madame de Lionel !» Dubert siffla doucement. Madame de Lionel, femme d'un haut fonctionnaire, tenait un salon bien connu et avait quelques prétentions à la sensibilité et à l'élégance. Le mari était un vieux civil, mais la société du salon était jeune et militaire. Si le lieutenant Dubert avait sifflé, ce n'était pas parce que l'idée de poursuivre le lieutenant Ferraud dans ce salon lui était désagréable, mais parce que, nouvel arrivé à Strasbourg, il n'avait pas encore eu le temps de se faire présenter à Madame de Lionel. « Et que pouvait bien faire ce bretteur de Ferraud ?» se demandait-il. « Ce n'était pas un homme à... Vous êtes certaine de ce que vous avancez » insista-t-il. La jeune fille en était tout à fait certaine. Sans se retourner pour le regarder, elle expliqua que le cocher de la maison voisine, connaissait le maître d'hôtel de Madame de Lionel. C'est de lui qu'elle tenait ses informations, et elle était parfaitement certaine. En donnant cette assurance, elle poussa un soupir. « Le lieutenant Ferraud allait là-bas presque chaque après-midi, » ajouta-t-elle. « Ah, bah !» s'écria Hubert avec ironie. Son estime pour Madame de Lionel baissait de plusieurs points. Le lieutenant Ferraud ne lui semblait pas spécialement digne de l'attention d'une femme douée d'une réputation de sensibilité et d'élégance. Mais comment savoir avec les femmes? Au fond, elles étaient toutes les mêmes, plus pratiques qu'idéalistes. Cependant, le lieutenant d'Hubert ne s'arrêta pas à de telles considérations. « Tonnerre ! » s'écria-t-il. « Le général va quelquefois dans la maison. S'il trouve ce bonhomme-là en train de faire les yeux doux à la dame, ça fera une histoire de tous les diables. Notre général n'est pas des plus commodes, je vous en réponds. Dépêchez-vous alors. Ne restez pas en plan, puisque je vous ai dit où le trouver, » s'écria la soubrette en rougissant jusqu'aux yeux. « Merci, mon enfant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Après avoir manifesté sa gratitude de façon agressive et avoir vu la jeune fille repousser son attaque avec une violence qui fit soudain place à une indifférence plus déconcertante encore, le lieutenant d'Hubert quitta la maison. Il parcourait les rues avec une crânerie martiale dans un cliquetis de sabres et d'éperons. La perspective d'aller relancer un camarade dans un salon où il n'était pas connu ne le troublait pas le moins du monde. L'uniforme est un passeport. Son titre d'officier d'ordonnance du général ajoutait à son assurance. Au surplus, maintenant qu'il savait où trouver le lieutenant Ferraud, il n'avait plus le choix. C'était une affaire de service. La maison de Madame de Lionel avait grande apparence. Un domestique en livrée, ouvrant la porte d'un vaste salon au parquet ciré, lança le nom du lieutenant d'Hubert et s'effaça pour le laisser passer. C'était jour de réception. Les dames portaient de grands chapeaux surchargés d'une profusion de plumes. Leurs corps serrés dans des gaines blanches, plaqués des aisselles au bout des satins de souliers découverts, leur donnaient la mine de fraîches sylphides, avec grand déploiement de cous et de bras nus. Les hommes qui causaient avec elles, au contraire, étaient lourdement vêtus d'uniformes bariolés. Leurs cols montaient jusqu'aux oreilles et de gros ceinturons ceignaient leur taille. Le lieutenant d'Hubert traversa la pièce sans la moindre gêne et s'inclina très bas devant une des sylphides allongée sur un divan. Il s'excusa d'une intrusion que pouvait seul faire pardonner l'extrême urgence d'un ordre de service dont il était chargé pour son camarade Ferraud. Il se proposait de revenir bientôt de façon plus régulière et d'implorer son pardon pour avoir interrompu un intéressant entretien. Un bras nu se tendit vers lui avec une gracieuse nonchalance, et il pressa respectueusement ses lèvres sur une main que, dans son fort intérieur, il qualifia d'osseuse. Madame de Lionel était une blonde à la peau trop fine et au long visage. « J'y compte, » fit-elle avec un sourire éthéré, qui découvrit une rangée de longues dents. « Venez ce soir chercher votre pardon. » « Je n'y manquerai pas, madame. » Cependant, le lieutenant Ferraud, magnifique dans son dolman neuf et ses bottes d'ordonnance prodigieusement luisantes, se tenait sur une chaise, à un pied du divan, une main sur la cuisse, l'autre effilant sa moustache. Sur un regard significatif de son camarade, il se leva sans empressement et le suivit dans une embrasure de fenêtre. « Que voulez-vous ? » demanda-t-il avec une indifférence surprenante. Le lieutenant d'Hubert ne pouvait imaginer que, dans l'innocence de son cœur et la simplicité de sa conscience, Ferraud put considérer son duel sans le moindre remords ou sans une légitime appréhension des conséquences. Sans garder un souvenir bien clair des origines de la querelle, commencée dans un établissement où l'on boit de la bière et du vin jusqu'à des heures avancées de la nuit, le jeune homme ne doutait pas le moins du monde de sa qualité d'offensé. Il avait choisi pour second deux amis d'expérience, et tout s'était passé conformément aux règles qui régissent cette sorte d'aventure. Un duel est bien fait pour que l'un des adversaires soit un peu abîmé, sinon tué du coup. C'est le Pékin qui avait été blessé. Cela aussi était dans l'ordre. Le lieutenant Ferraud était parfaitement tranquille. Mais Hubert prit cette attitude pour de l'affectation, et lui parla avec une certaine vivacité. « Je suis chargé par le général de vous donner l'ordre de vous rendre à votre chambre pour y prendre des arrêts de rigueur. » C'était au tour de Ferraud d'être étonné. « Que diable me racontez-vous là » grommela-t-il avec une stupeur telle qu'il ne put qu'imiter machinalement les gestes de son camarade. Les deux officiers, l'un grand avec une moustache couleur de blé mûr, l'autre court et vigoureux avec un nez busqué et une toison de cheveux noirs frisés, s'approchèrent de la maîtresse de maison pour prendre congé d'elle. Madame de Lionel, en femme de goût éclectique, sourit aux deux lieutenants avec une sensibilité impartiale et un égal intérêt. Madame de Lionel faisait ses délices des variétés infinies de l'espèce humaine. Tous les yeux du salon suivirent la retraite des deux officiers, et quand ils furent partis, un ou deux messieurs, déjà au courant du duel, en informèrent les aimables sylphides qui accueillirent cette nouvelle à petits cris d'effroi. Cependant, les deux hussards marchaient côte à côte, Ferraud s'efforçant de scruter la raison cachée des choses qui, en l'occurrence, échappaient à sa compréhension. Hubert, assez gêné de son rôle, car le général l'avait prié de s'assurer en personne que le lieutenant Ferraud exécuterait ses ordres à la lettre et sur le champ. Le patron a l'air de connaître l'animal, se disait-il, en regardant son compagnon dont le visage brun, les yeux ronds et jusqu'à la petite moustache de jais retroussée semblait animé par une exaspération intérieure contre l'incompréhensible. Et il remarqua à haute voix, sur un ton de reproche, « Le général est dans une colère furieuse contre vous. » Ferraud, arrêté court sur le bord du trottoir, s'écria sur un ton d'évidente sincérité, « Et pour quelle raison, que diable ?» L'innocence de la bouillante âme gasconne s'accusait dans le geste qui lui fit saisir sa tête à deux mains, comme pour l'empêcher d'éclater de perplexité. « À cause de votre duel, » fit sèchement Dubert, fort agacé par cette espèce d'ineptie perverse. « De mon duel ?» Le lieutenant passait d'un paroxysme d'étonnement à l'autre. Il laissa tomber ses mains et se remit lentement en marche, s'efforçant de concilier une pareille information avec ses propres sentiments. Mais c'était chose impossible. Il éclata d'indignation. Fallait-il laisser un Pékin mangeur de choucroute s'essuyer les pieds sur l'uniforme du 7e hussard ? Dubert ne pouvait rester tout à fait insensible à ce sentiment naïf. Le Gascon était un peu fou, mais il y avait tout de même du vrai dans ses paroles. « J'ignore évidemment jusqu'à quel point vous étiez dans votre droit, » commença-t-il d'un ton conciliant, et le général a pu lui-même n'être pas exactement informé. On est venu l'assourdir de lamentations. « Ah, le général n'est pas exactement informé !» marmonna le lieutenant Ferraud, qui marchait de plus en plus vite, à mesure que montait en lui la colère soulevée par l'injustice de son sort. « Pas exactement !»« Et il me flanque des arrêts de rigueur, avec Dieu sait quoi par derrière !»« Ne vous agitez pas comme cela !» remontra l'autre. « La famille de votre adversaire est très influente, vous le savez, et l'affaire se présente assez mal au premier abord. Le général a dû, sans tarder, faire état de la plainte. Je ne crois pas qu'il veuille user à votre égard d'une sévérité excessive. Rien de mieux pour vous que de rester quelque temps à l'écart. Bien obligé au général, grommela Ferraud entre ses dents. Et peut-être pensez-vous que je vous dois de la reconnaissance pour avoir pris la peine de venir me relancer dans le salon d'une femme qui... Franchement, je le crois, interrompit Dubert avec un rire ingénu. J'ai eu une peine de tous les diables à vous dénicher. Vous n'auriez pas pu trouver de meilleur endroit pour passer votre temps dans les circonstances actuelles. Si le général vous avait trouvé faisant les yeux doux à la déesse du temple, oh mon Dieu, il a horreur de recevoir des plaintes contre ses officiers, vous le savez, et votre attitude aurait pu lui faire l'effet d'une véritable bravade. Les deux jeunes gens étaient arrivés devant le logis de Ferraud. Celui-ci se tourna vers son compagnon. « Lieutenant Dubert, » fit-il, « j'ai à vous dire quelque chose qui ne peut pas très bien se dire dans la rue. Vous ne refuserez pas d'entrer. » La jolie servante avait ouvert la porte. Ferraud passa brusquement devant elle, et elle leva des yeux alarmés et interrogateurs sur le lieutenant Dubert, qui se contenta de hausser légèrement les épaules et suivit l'autre avec une répugnance marquée. Dans sa chambre, Ferraud dégrafa son nouveau dolman qu'il lança sur le lit. et, croisant les bras sur sa poitrine, se tourna vers l'autre hussard. « Me croyez-vous homme à céder comme un pleutre à l'injustice ? » demanda-t-il d'une voix furieuse.
« Oh, soyez raisonnable !»
fit doucement Hubert. « Raisonnable ! Je le suis ! Parfaitement raisonnable !» riposta le méridional qui avait peine à se contenir. « Je ne puis pas demander compte au général de sa conduite, mais vous allez me répondre de la vôtre. »« Je ne saurais écouter de pareilles sornettes, » murmura Hubert, avec une grimace un peu méprisante. « Vous appelez cela des sornettes ? La chose me paraît pourtant bien claire, à moins que vous ne compreniez pas le français. Où diable voulez-vous en venir ? Je veux, » éclata brusquement Ferraud, « vous couper les oreilles pour vous apprendre à venir me déranger quand je suis auprès d'une dame. » Un profond silence suivit cette déclaration, et par la fenêtre ouverte, Hubert entendit les petits oiseaux chanter paisiblement dans le jardin. Il fit appel à tous en calme pour dire « Si vous le prenez sur ce ton, je me tiendrai naturellement à votre disposition dès que vous serez libre de donner suite à l'affaire. Et je ne crois pas que vous me coupiez les oreilles. « Je vais lui donner suite sans tarder !» cria Ferraud avec une violence extrême. « Si vous croyez pouvoir déployer vos mines et vos grâces ce soir dans le salon de Madame de Lionel, vous vous trompez fort. »« Vraiment, » fit Hubert, qui commençait à sentir monter sa colère, « vous êtes un homme bien insociable. Les ordres du général étaient de vous mettre aux arrêts, et non pas de vous couper en morceaux. Au revoir !» Et, tournant le dos au petit Gascon, qui, toujours ferme dans les beuveries, paraissait ivre de naissance et grisé par le soleil de son pays de vigne, l'homme du Nord, qui savait boire sec à l'occasion, mais était né sobre sous le ciel mouillé de Picardie, se dirigea vers la porte. En entendant derrière son dos le bruit caractéristique d'un sabre tiré du fourreau, il fut pourtant obligé de s'arrêter. « Le diable emporte ce maudit méridional, » pensa-t-il, en faisant volte-face et en contemplant avec placidité la posture belliqueuse de Ferraud. « tout de suite !» bredouillait le Gascon hors de lui. « Je vous ai donné ma réponse, » fit l'autre, avec le plus grand calme. Il s'était d'abord senti un peu vexé, avec un soupçon de gaieté, mais son visage commençait à se couvrir. Il se demandait sérieusement comment il allait s'esquiver. Il était impossible de fuir devant un énergumène qui brandissait un sabre, et quant à se battre avec lui, c'était plus inadmissible encore. Il attendit un instant, puis dit exactement ce qu'il éprouvait. « Lâchez ça, je ne me battrai pas avec vous, je ne me laisserai pas ridiculiser. »« Ah, vous ne vous laisserez pas !» grinça Ferraud. « Vous préférez sans doute être infâme. Entendez-vous ce que je vous dis ? Infâme ! Infâme ! Infâme ! » cria-t-il en se dressant sur les pieds et en se laissant retomber tour à tour. Il était devenu très rouge. Le lieutenant avait un moment blêmi sous l'épithète odieuse, puis il rougit à son tour jusqu'à la racine de ses cheveux blonds. « Vous êtes aux arrêts, espèce de fou !» objecta-t-il avec un mépris courroucé. « Et le jardin ? Il est bien assez grand pour y coucher votre grande carcasse !» bredouilla l'autre si furieusement que la colère de son interlocuteur s'en apaisa. « C'est parfaitement absurde, » fit-il, heureux d'avoir trouvé une échappatoire. « Nous ne dénicherons jamais de camarades pour nous servir de second. C'est une plaisanterie. »« Des seconds ? Au diable les seconds ! Nous n'avons pas besoin de témoins. Ne vous tourmentez pas de ça. Je préviendrai vos amis de venir vous enterrer une fois l'affaire finie. Et si vous voulez absolument des témoins, je dirai à la vieille logeuse de passer la tête par une de ses fenêtres. Tenez, voilà le jardinier. Il fera l'affaire. » Il est sourd comme un pot, mais il a deux yeux dans la tête. Venez, je vous apprendrai, mon bel oiseau d'état-major, que la transmission des ordres d'un général n'est pas toujours un jeu d'enfant. Tout en parlant, il avait débouclé son fourreau vide, qu'il expédia sous le lit, puis, abaissant la pointe de son sabre, il passa devant Hubert, perplexe, en criant « Suivez-moi !» À peine eut-il ouvert la porte, qu'on entendit un petit cri, et que la jeune soubrette, qui avait écouté par la serrure, recula en trébuchant, le dos de ses mains sur les yeux. Ferraud ne parut pas la voir, mais elle courut à sa poursuite et lui saisit le bras gauche. Il l'écarta rudement. Elle se précipita alors sur le lieutenant Dubert et s'agrippa à la manche de son uniforme. « Misérable ! » sanglota-t-elle. « Voilà donc pourquoi vous le cherchiez. » « Laissez-moi !» supplia Dubert, qui s'efforçait de se dégager doucement. « On se croirait dans un asile d'aliénés, » protesta-t-il avec exaspération. « Laissez-moi, je ne lui ferai pas de mal. » Un rire diabolique de Ferro souligna cette affirmation. « Arrivez !» hurla-t-il en tapant du pied. Et le lieutenant Dubert le suivit, faute de pouvoir faire autrement. Disons pourtant, pour rendre justice à son bon sens, qu'en passant dans le vestibule, l'idée lui vint d'ouvrir la porte de la rue et de se précipiter dehors. Mais il la repoussa aussitôt, convaincu que l'autre le poursuivrait sans honte ni vergogne. La perspective d'un officier de hussard pourchassé dans les rues par un autre officier de hussard, sabre en main, ne pouvait être un seul instant envisagée. Il suivit donc Ferro au jardin. Derrière eux marchait la jeune fille toute chancelante. Les yeux et les lèvres blêmes, elle cédait à une affreuse curiosité. Elle songeait aussi, si le besoin s'en présentait, à s'interposer entre le lieutenant Ferro et la mort. Le jardinier sourd, parfaitement inconscient du bruit des pas qui s'approchaient, continuait à arroser ses fleurs, quand le lieutenant Ferro lui allongea une bourrade dans le dos. À la vue de ce furieux qui agitait un grand sabre, le vieillard, tremblant de tous ses membres, lâcha son arrosoir. Ferro fit rouler l'instrument d'un coup de pied rageur et, saisissant le jardinier à la gorge, l'appliqua contre un arbre. Il l'y maintint et lui cria dans l'oreille « Reste là et regarde, tu comprends? Il faut que tu regardes. Tâche de ne pas bouger. » Le lieutenant Dubert descendait lentement l'allée et déboutonnait son dolman avec un dégoût non dissimulé. À ce moment même, la main sur la poignée de son sabre, il hésitait à dégainer, lorsque l'exclamation « En garde, fichtre! Pourquoi vous croyez-vous donc ici ?» et la ruée de son adversaire l'obligèrent à se mettre au plus vite en posture de défense. Le fracas des armes remplissait le jardin correct, qui n'avait jusque-là connu de bruit plus martial que le cliquetis du sécateur. Tout à coup, le buste de la vieille propriétaire émergea d'une des fenêtres du premier. Elle levait les bras au-dessus de son bonnet blanc et criait d'une voix chevrotante. Le jardinier restait collé à l'arbre et ouvrait, d'étonnement stupide, une bouche édentée. Un peu plus haut, la jolie fille, apparemment rivée par un charme magique au coin de la pelouse, faisait quelques pas à droite et à gauche et se tordait les mains avec un flot de paroles sans suite. Elle ne se précipita pas entre les combattants. Les attaques du lieutenant Ferro étaient si féroces que le cœur lui manqua. Dubert, ses facultés concentrées sur la défensive, avait besoin de toute son adresse et de sa science du sabre pour parer les coups de son adversaire. Deux fois déjà, il avait dû rompre. Il était agacé de sentir son équilibre menacé par les graviers ronds de l'allée qui roulaient sous les semelles épaisses de ses bottes. « Mauvais terrain, se disait-il. » Non sans tenir sur le regard furieux de son robuste adversaire, ses yeux attentifs, rétrécis par des paupières aux longs cils. Cette absurde affaire allait compromettre sa réputation naissante de jeune officier raisonnable et bien élevé. Elle ruinerait en tout cas ses espoirs immédiats et lui aliénerait les bonnes grâces du général. Ses préoccupations mondaines étaient évidemment déplacées en un moment aussi solennel. Le duel, qu'on le tienne pour une cérémonie du culte de l'honneur, ou qu'on le réduise, dans son essence morale, à une forme de jeu viril, réclame une parfaite unité d'intention et une austérité homicide. Par ailleurs, ce souci aigu de son avenir n'eut pas un mauvais effet sur le lieutenant Dubert, en ce qu'il commença d'exciter sa colère. Quelques 70 secondes s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient croisé le fer, et Dubert dut rompre une fois de plus pour ne pas transpercer son téméraire adversaire comme un scarabée dans une boîte de naturaliste. Sur quoi, se méprenant à son motif, Ferro redoubla ses attaques avec un ricanement de triomphe. « Cet enragé-là vint maculer au mur, » se disait Dubert. Il se croyait bien plus près de la maison qu'il n'était en réalité et n'osait pas tourner la tête. Il lui semblait tenir son adversaire en respect avec ses yeux mieux qu'avec sa pointe. Féroce tassait et bondissait avec une agilité féroce de tigre, bien faite pour troubler le cœur le mieux accroché. Et ce qu'il y avait dans son attitude de plus effroyable que l'élan de la bête sauvage, qui accomplit dans l'innocence de son cœur une fonction naturelle, c'était cette frénésie de froide férocité dont l'homme est seul susceptible. Au milieu de ses préoccupations mondaines, D'Hubert s'en avisa tout à coup. Il s'était laissé attirer dans une affaire absurde et préjudiciable, car, quelles que fussent à l'origine les intentions stupides de son antagoniste, il était évident maintenant qu'il voulait tuer, sans plus. Il le voulait avec une intensité de volonté parfaitement étrangère aux facultés inférieures du tigre. Comme il arrive aux hommes naturellement braves, la claire vision du danger intéressait D'Hubert, et dès que son intérêt fut nettement éveillé, la longueur de son bras et le calme de sa tête agirent en sa faveur. Ce fut au tour de Féraud de rompre, avec un grognement de rage déconfite. Il fit une feinte rapide et se lança en avant. « Ah, c'est comme ça, vraiment !» s'écria D'Hubert en lui-même. Le combat avait duré près de 2 minutes, temps suffisant pour énerver le plus calme des hommes, en dehors même des motifs de la querelle. Et brusquement, tout fut fini. En venant au corps à corps, sous la garde de son adversaire, Féraud reçut une estafilade sur son bras raccourci. Il ne s'en aperçut même pas, et il tomba à la renverse avec une extrême violence. Le choc plongea sa cervelle bouillante dans la quiétude d'une parfaite insensibilité. En le voyant tomber, la jeune Alsacienne poussa un grand cri, tandis qu'à la fenêtre, la vieille dame interrompait ses gémissements pour se signer dévotement. À la vue de son adversaire immobile, le visage levé vers le ciel, le lieutenant D'Hubert crut l'avoir tué net. L'impression d'avoir donné un coup de taille assez violent pour couper son homme en deux le hanta un instant avec le souvenir exagéré de toute la vigueur qu'il avait mise dans ce coup. Il se laissa vivement tomber à genoux devant le corps inanimé. Quand il constata que le bras n'était même pas détaché, il éprouva un soulagement mitigé d'un certain désappointement. L'animal méritait davantage. Pourtant, D'Hubert n'avait jamais souhaité la mort de ce pêcheur. L'affaire était déjà bien assez vilaine, et il s'efforça au plus vite d'étancher le sang de la blessure. Sa mauvaise fortune voulut que, dans cette posture, il fût ridiculement empêtré par la servante. Avec des cris d'horreur, elle l'assaillit par derrière et l'empoigna aux cheveux pour lui tirer la tête. Il ne concevait pas la raison qui pouvait pousser la jeune fille à l'embarrasser à ce moment précis. Il n'essaya même pas de comprendre. Toute l'affaire n'était qu'un vilain et obsédant cauchemar. Deux fois, pour ne pas être renversé, il dut se lever et la repousser. Il le faisait stoïquement, sans un mot, pour s'agenouiller à nouveau et reprendre sa besogne aussitôt. Mais la troisième fois, le sang arrêté, il saisit la jeune fille et lui tint les mains collées au corps. La coiffe de travers, elle avait les joues écarlates et ses yeux étincelaient de folle colère. D'Hubert la regarda doucement pendant qu'elle le traitait de misérable, de traître et d'assassin. Ses accusations le troublaient moins que la conviction qu'elle lui avait abondamment griffé le visage. Le ridicule allait s'ajouter au scandale de l'affaire. Il entendait l'histoire passer, enjolivée de bouche en bouche, par toute la garnison. Elle gagnerait l'armée d'un bout à l'autre de la frontière, avec toutes les déformations possibles de sentiments, de motifs et de circonstances, et finirait par jeter un doute jusque dans les cœurs de son honorable famille sur sa conduite et la distinction de ses goûts. C'était très bien pour cet imbécile de Féraud qui n'avait ni relation ni famille. Son courage faisait sa seule qualité, et c'était là un don simplement naturel, apanage du dernier des cavaliers de toute la cavalerie française. Sans cesser de maintenir dans sa poigne les bras de la jeune fille, D'Hubert jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le lieutenant Féraud avait ouvert les yeux. Il ne bougeait pas. Comme un homme qui sort d'un profond sommeil, il regardait sans expression le ciel du soir. Les appels véhéments que D'Hubert adressait au vieux jardinier restaient sans effet et ne lui faisaient même plus fermer sa bouche édentée. Le jeune homme se souvint brusquement que le vieillard était parfaitement sourd. Pendant tout ce temps, la servante se débattait et lui envoyait des coups de pied dans les jambes, avec une rage muette de furie, plus qu'avec une réserve de jeune fille. Il continuait à la tenir ferme, averti par son instinct que s'il la lâchait, elle lui sauterait aux yeux. Et cette situation l'humiliait singulièrement. La jeune fille finit pourtant par rester tranquille, moins par raison que par épuisement. Dubert essaya de se tirer du cauchemar par la voie des négociations. « Écoutez-moi, fit-il, avec tout le calme qu'il put trouver en lui. Voulez-vous me promettre de courir à la recherche d'un chirurgien si je vous laisse aller ?» Il éprouva une affliction sincère à entendre la jeune fille déclarer qu'elle n'en ferait rien. Au contraire, elle affirma entre ses sanglots son intention de rester dans le jardin et de lutter bec et ongles pour la protection du vaincu. Une telle obstination était désolante. « Ma chère enfant, cria-t-il avec désespoir, est-il possible que vous me croyiez capable d'assassiner un adversaire blessé ? Quel ? Voulez-vous rester tranquille, espèce de petit chat sauvage ?» Il luttait. Une voix épaisse, endormie, dit derrière le dos, « Qu'est-ce que vous faites à cette fille ?» Le lieutenant Ferraud s'était arc-bouté sur son bras valide. Il regardait d'un air hébété son autre bras, le désordre de son uniforme ensanglanté, une petite flaque rouge étalée à terre et son sabre tombé à deux pas dans l'allée. Puis il se recoucha doucement pour réfléchir à tous ses problèmes, autant du moins que le lui permettait un affreux mal de tête. Dubert lâcha l'Alsacienne, qui s'accroupit aussitôt près de l'autre lieutenant. Les ombres de la nuit tombaient sur le joli jardin et noyaient le tendre groupe, d'où s'échappaient des murmures étouffés de chagrin et de compassion, mêlés à des bruits faibles d'un autre caractère, qui rappelaient la voix d'un malade mal éveillé et qui se fût essayé à jurer. Le lieutenant Dubert s'esquiva. Il traversa la maison silencieuse et, sorti dans la rue, se félicita du crépuscule qui dissimulait aux passants ses mains ensanglantées et les égratignures de son visage. On ne pouvait espérer pourtant tenir l'affaire secrète. Et, redoutant par-dessus tout le discrédit et le ridicule, il se reprochait douloureusement de se glisser par les rues détournées avec une mine d'assassin. Soudain, le son d'une flûte sortie par la fenêtre ouverte du premier étage d'une maison modeste interrompit ses réflexions lugubres. Le virtuose apportait à son étude un véritable acharnement, et, sous les fioritures de la mélodie, on percevait le battement régulier du pied qui battait les mesures sur le plancher. Dubert lança le nom d'un chirurgien-major qu'il connaissait bien. La flûte se tut, et le musicien, paraissant à la fenêtre, son instrument en main, jeta les yeux dans la rue. « Qui va là ? Vous, Dubert, qu'est-ce qui vous amène par ici ?» Il n'aimait pas être dérangé à l'heure où il jouait de la flûte. C'était un homme dont les cheveux avaient blanchi à panser les blessés sur les champs de bataille, et qui s'était consacré à l'ingrate besogne en laissant les autres récolter honneur et avancement. « Je voudrais que vous alliez sans tarder voir Ferraud. Vous connaissez le lieutenant Ferraud. Il habite à deux pas d'ici, quelques minutes à peine. »« Qu'est-ce qu'il a donc ? Blessé. Vous en êtes sûr ? Sûr ? Je le quitte à l'instant. »« C'est amusant, fit le vieux chirurgien. » Amusant était son terme favori, mais l'expression de son visage, quand il le prononçait, n'était jamais en harmonie avec le mot. C'était un homme placide. « Entrez, ajouta-t-il, je me prépare à l'instant. »« Merci bien, je voudrais me laver les mains dans votre chambre. » Dubert trouva le chirurgien en train de dévisser sa flûte et d'en ranger méthodiquement les morceaux dans un étui. L'autre tourna la tête. « Il y a de l'eau là, dans le coin. Vos mains en ont besoin, en effet. » « J'ai arrêté l'hémorragie, fit le lieutenant. Vous ferez bien de vous hâter. Il y a plus de 10 minutes que j'ai quitté le blessé, vous savez. » Le chirurgien se préparait avec lenteur. « De quoi s'agit-il ? Un pansement défait ? C'est amusant. J'ai travaillé à l'hôpital toute la journée, et on m'avait dit ce matin qu'il s'était tiré d'affaire sans égratignure. » « Ce n'est pas le même duel, apparemment, grogna sourdement Dubert, qui essuyait ses mains à un gros torchon. Pas le même ? Comment cela ? Un autre. Il faudrait le diable pour me faire aller deux fois le même jour sur le terrain. Le chirurgien examinait attentivement le lieutenant Dubert. « Qu'est-ce qui vous a griffé le visage de la sorte ?»«
Des deux côtés, symétriquement.
C'est amusant. »«
Très amusant, » grommela Dubert.
« Et vous trouverez amusante aussi l'estafilade de son bras. Il y a de quoi vous amuser tous les deux quelque temps. » Le chirurgien fut saisi et impressionné par l'amertume soudaine de ces paroles. Les deux hommes sortirent ensemble de la maison, et le docteur fut encore plus intrigué par la conduite de son compagnon. «
Vous ne venez pas avec moi » demanda-t-il.
« Non, » répondit Dubert. « Vous trouverez bien la maison tout seul. Vous verrez sans doute la porte ouverte sur la rue. »«
Très bien. Où est sa chambre ?»«
Au rez-de-chaussée. Seulement vous ferez bien de traverser la maison et d'aller d'abord voir dans le jardin. » Ce singulier avis incita le chirurgien à courir sans plus de paroles. Dubert rentra chez lui, débordant de pensées indignées, inquiètes et véhémentes. Presque autant que la colère de ses supérieurs, il redoutait les brocards de ses camarades. L'affaire était affreusement grotesque et embarrassante, même sans tenir compte de l'irrégularité d'un combat qui la rapprochait odieusement d'un crime. Comme tous les hommes médiocrement doués d'imagination, cette faculté qui favorise tant la marche des pensées, le lieutenant Dubert se sentit accablé par les divers aspects de la situation. Il était certainement heureux de n'avoir pas tué Ferraud en dehors de toutes les règles, et sans les témoins nécessaires à une telle opération. Fort heureux, ce qui ne l'empêchait pas d'éprouver le désir de lui tordre le cou sans cérémonie. Il était encore sous l'empire de ses sentiments contradictoires quand le chirurgien amateur de flûte vint le voir. Plus de 3 jours s'étaient écoulés. Le lieutenant Dubert n'était plus officier d'ordonnance du général commandant de la division. Il avait été rendu à son régiment, et, pour renouer connaissance avec la grande famille militaire, il avait pris des arrêts de rigueur dans une chambre du quartier et non dans son logement de ville. La gravité du cas lui avait fait interdire toute visite. Il ne savait pas ce qui s'était passé, ce qui se disait ou ce que l'on pensait. L'arrivée du chirurgien constitua une surprise fort inattendue pour le prisonnier accablé. L'amateur de flûte commença par expliquer que sa visite était due à une faveur spéciale du colonel. « Je lui ai représenté qu'il n'était que juste de vous apporter des nouvelles authentiques de votre adversaire, » poursuivit-il. « Vous serez heureux d'apprendre qu'il se rétablit rapidement. » Le visage du lieutenant Dubert n'exprima aucune des marques ordinaires de la joie. Il continuait d'arpenter la pièce poussiéreuse et nue. « Prenez donc un siège, docteur, » grommela-t-il. Le chirurgien s'assit. L'affaire a été appréciée de façon diverse, tant en ville qu'à l'armée. À vrai dire, les divergences d'opinion sont amusantes. « À coup sûr, » marmonna Dubert, sans interrompre sa promenade monotone et non sans s'étonner, en secret, qu'il pût y avoir 2 opinions sur l'affaire. Le chirurgien reprit « Évidemment, on ne connaît pas exactement les faits. Je pensais, interrompit Dubert, que cet individu vous aurait mis au courant. Il a bien dit quelque chose la première fois que je l'ai vu, » concéda l'autre. « Et, à propos, c'est bien dans le jardin que je l'ai trouvé. Le coup qu'il avait reçu sur le derrière de la tête l'avait rendu un peu incohérent. Par la suite, il s'est montré plutôt réticent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il eût le bon sens de témoigner quelque honte, » grommela Dubert, qui reprit sa promenade, tandis que le chirurgien murmurait, « Très amusant. De la honte, ce n'est pas précisément son état d'esprit. Vous, évidemment, vous pouvez considérer les choses sous un angle différent. « Les choses, de quoi parlez-vous » demanda Dubert, avec un coup d'œil oblique sur l'homme au visage lourd et aux poils grisonnants. « En tout cas, » fit le chirurgien avec une certaine impatience, « je ne veux pas formuler d'opinion sur votre conduite. » « Par le ciel, vous ferez bien !» éclata Dubert. « Là, là, ne prenez pas feu comme cela, ça ne rapporte guère à la longue. Comprenez, une fois pour toutes, jouvenceau que vous êtes, que je ne me soucie pas de vous entamer la peau avec d'autres outils que ceux de mon métier. Mais mon conseil est bon. Si vous continuez de la sorte, vous vous ferez une vilaine réputation. « Continuez comment ?» demanda le lieutenant, tout à fait sidéré. « Moi ?» « Moi, me faire une réputation? Qu'est-ce que vous imaginez donc? Je vous ai déjà dit que je ne prétendais pas déterminer les torts dans cet incident.
Ce n'est pas mon affaire. Cependant, que diable a-t-il pu vous raconter ? Interrompit Lubert avec un ahurissement parfait.
Je vous ai déjà dit qu'au premier abord, lorsque je l'ai trouvé dans le jardin, il était incohérent. Après, il s'est montré naturellement réticent. Du moins, ai-je cru comprendre qu'il n'y avait pas de sa faute dans l'affaire.
« Pas de sa faute !» clama le lieutenant du haut de sa voix. Puis, baissant le ton et d'un accent ému, « Et moi, y avait-il de ma faute ?»
Le chirurgien se leva. Ses pensées allaient à la flûte, fidèle compagne à la voix consolatrice. Au voisinage des ambulances du front, après 24 heures de rude labeur, on l'avait entendu troubler de ses doux accents l'horrible paix des champs de bataille abandonnés au silence et à la mort. L'heure exquise de sa vie quotidienne approchait, et en temps de paix, il tenait à cette heure-là comme un avare à son trésor.
« bien sûr, » fit-il négligemment. « Vous ne sauriez en juger autrement. Quant à moi, parfaitement neutre, et animé des meilleures intentions à votre double endroit, j'ai consenti à vous transmettre son message. Dites que je me prête aux fantaisies d'un malade, si vous voulez. Il veut que vous sachiez que l'affaire n'est nullement close. Il vous adressera ses témoins dès qu'il aura repris des forces, à condition, bien entendu, que l'armée ne soit pas en campagne à l'époque.
« Ses témoins, vraiment ? Eh bien, c'est entendu !» bredouilla Dubert avec fureur. Le visiteur ne pouvait deviner le motif d'une telle exaspération, mais cette colère le confirma dans l'opinion qui commençait à se faire jour qu'un débat très sérieux s'était élevé entre les jeunes gens, un motif assez important pour réclamer un air de mystère, un fait de la plus haute gravité. Pour vider leur querelle, les deux jeunes officiers avaient risqué au seuil de leur carrière disgrâce et rétrogradation. Le chirurgien craignait que l'enquête prochaine déçût la curiosité générale. Les deux adversaires n'allaient pas livrer à la curiosité publique un différend assez grave pour leur faire risquer une accusation de meurtre. De quoi pouvait-il s'agir ? Le docteur n'était pas très curieux par tempérament, mais la question qui harcelait son esprit lui fit retirer à deux reprises ce soir-là l'instrument de ses lèvres en plein milieu d'un morceau, et il resta un moment silencieux à la recherche d'une théorie plausible.